Bonjour, vous m'entendez? Bon, je vais vous présenter Pluie. Pluie est une interface graphique pour Python qui utilise Internet Explorer. Donc ici, vous avez une petite... J'ai un quart d'heure, donc je vais essayer d'aller vite. Vous avez une petite fiche de Pluie qui est limitée au minimum, qui est très simple de façon à aborder facilement les différents concepts. Il y a dans la fiche un texte, un champ avec son label devant et un bouton. Pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose. Si on clique sur, on saisit des données, on clique sur le bouton, ça affiche la valeur du champ et ça ferme la fiche. Donc on va la compléter un petit peu. Je rappelle la fiche. Alors, je vais rajouter un champ. Mais avant de rajouter un champ, je vais saisir une valeur que je veux garder. Pour ajouter un champ, j'appelle le menu de conception sans sortir du traitement. Je choisis Ajoute et je vais ajouter. Alors je repère d'abord où je vais l'ajouter, donc juste avant le label du champ qui existe déjà. J'insère avant et j'insère un autre champ. Ce champ, là j'ai le menu de création d'un élément. Ici, en identifiant, je vais donner mon code que je veux. Là, je l'appelle CH0. C'est l'identifiant, c'est ce qui permettra de repérer tous les éléments de la fiche. Dans le label, je vais marquer champ souligné 0, par exemple. Et je vais dire que je le veux dans le sens horizontal, c'est-à-dire que le label est sur la même ligne que le champ lui-même. Lorsque je valide, le champ est ajouté. Alors, la caractéristique de Pluie, c'est que c'est un GUI ultra dynamique. On modifie les écrans pendant le travail, sans perdre les données en cours de saisie, ni les variables globales, etc. On a ajouté le champ ici et on n'a pas perdu ce qui avait été saisi dans le champ 1. Par contre, tout ça c'est en mémoire. Si on ferme la fiche, s'il y a une coupure de courant, c'est perdu. On va ajouter un autre élément, on va ajouter un bouton. Donc je rappelle mon menu de conception, je choisis Ajoute, je repère où je vais l'ajouter par rapport au bouton 1, je le mets avant et j'ajoute un bouton. Donc le bouton, je vais l'appeler New Bouton par exemple, et je valide. Le bouton est créé, on n'a toujours rien perdu. Par contre, si je clique sur New Bouton, il ne se passe rien. Alors pour l'instant, on va mettre du code. Avant d'aller plus loin, je vais sauvegarder ce que j'ai fait. Donc ici, je choisis sauvegarde et c'est fait. Si je sors maintenant et que je rentre, ma fiche a été sauvegardée avec le bouton qui ne fait toujours rien. D'accord ? Donc on modifie en cours de travail sans perdre les données. Je vais maintenant ajouter du code au bouton. Alors, c'est une autre notion, c'est la notion des événements qui sont associés. Alors, par exemple, au bouton, j'appelle toujours mon menu de conception, je choisis ce que j'appelle les FEA, fonction, événement associé, édition. Alors, quel élément sur mon bouton que j'ai créé tout à l'heure et sur le clic. Bon, je continue. J'ai un mini éditeur. Alors, plutôt que de taper à la main. Je mets mon code. Donc ici, alors je sais pas, vous arrivez à voir un peu. Alors je vais faire un petit zoom. Voilà, c'est mieux. Donc ici, on a une variable globale parce qu'elle sert quand on va appeler depuis d'autres programmes que Python. On se connecte au champ 0 et on récupère la valeur et on va l'afficher. Alors, je reviens en zoom. Lorsque je valide, rien de changé a priori. Alors, je mets une valeur ici, 3, 3, 3, 3. Lorsque je clique sur le bouton, le code s'exécute de suite. Je vais rajouter un autre code, cette fois-ci sur le champ, ici, sur le champ 0. Alors, contre les fuites, j'appelle mon menu de conception. Je vais éditer le texte alors du champ 0, Alors, parmi les événements, j'en ai, bon, il y a les classiques, clics, blur, etc. Il y en a un qui est intéressant souvent en gestion, c'est change value, qui s'appliquera quand on aura changé la valeur du champ. Je continue et je vais, alors je dois en avoir un. Voilà. Ça m'évite de retaper et de faire des erreurs. Donc ici, j'ai mis quelque chose. Si je suis sur le champ, je passe sur l'autre, il ne se passe rien. Je tape une nouvelle valeur. Et lorsque je tabule, l'événement s'est déclenché. On voit qu'on a la valeur du contenu du champ 0 à l'arrivée et la valeur actuelle. Le code qui est associé au bouton de tout à l'heure est toujours actif. On va modifier. On va modifier le code du bouton. Contrôle F8, édition. Je vais sur le bouton. Clic. Continuer. Donc on retrouve le code de tout à l'heure. Et on le remplace par un code un peu plus complet. Je vous le mets en zoom. On se connecte au champ 0. On se connecte au champ 0,1, ça s'appelait comme ça. On affiche le contenu du champ à l'arrivée. On affiche le contenu actuel. On va changer la valeur du champ 1 à partir du bouton. On va changer, donc on fait le calcul. Et après, on va mettre le focus sur le champ 0. Alors, je remets en zoom ça pour avoir accès à la validation. Donc ici, je mets une nouvelle valeur. Quand je clique sur le bouton, maintenant, contenu du champ 0 à l'arrivée, c'était l'ancienne valeur. Contenu actuel, c'est la nouvelle valeur. On va changer le champ, il prévient. Hop, on a changé le champ 1. Il a pris trois fois le premier. On va mettre le focus sur le champ 0. Voilà, et on déclenche l'autre. D'accord? Pour l'instant, on a sauvegardé que les objets, on n'a pas sauvegardé avec les codes. Alors, je vais les sauvegarder. Donc, FEA sauve. Voilà, et c'est sauvegardé. Si je ressors et que je reviens. Maintenant, je change le truc, ça se déclenche, etc. Alors, je vais vous expliquer un peu le principe de pluie, maintenant que vous avez vu que c'était. Pluie, c'est un script Python qui appelle Internet Explorer via COM et qui le pilote entièrement. Il le redéfinit pour enlever les barres d'outils, les barres de menus, tout ça. Les barres d'état, il gère le fond, il gère le contenu et il appelle du JavaScript qui est dans les fiches elles-mêmes. Donc il y a un dialogue permanent via COM entre Python et JavaScript. Ça passe par COM parce que j'avais essayé avec un serveur web, mais on est entre 100 et 1000 fois plus rapide par COM. Et dans certains écrans, il y a beaucoup, beaucoup de jointures de connexion. Puisque j'ai fait des tests avec des fiches qui ont jusqu'à 10 000 connexions, quand on a tous les éléments d'un tableau, etc. Et ça suit sans problème. Alors, en pratique, les fichiers, quand on sauvegarde une fiche pluie, il y a plusieurs fichiers. Il y a un fichier qui s'appelle, avec l'extension .fiche, .pluie, pardon, .pluie, qui définit la forme de la fiche, c'est-à-dire les objets, la taille, le style et où ils sont. Il y a un autre fichier qui c'est .utilise, c'est le programme, le script d'utilisation. Ensuite, il y a un ensemble de fichiers qui sont des .fea, fonction événement associé, qui permettent de. Il n'y a pas assez de demoiselles dans la salle pour faire du bouche à bouche. Bon, on va continuer. Donc, chaque fonction événement est dans un fichier séparé. Alors, ça, c'est le mode de fonctionnement en interactif, mais on peut très bien utiliser de façon plus classique et tout mettre dans un seul fichier, un script Python si on a envie. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe, c'est très bien. Alors, au niveau, à l'intérieur d'Internet Explorer, ça utilise du HTML, du JScript et les CSS, ce qui fait qu'on peut changer à la volée par code le CSS d'un objet, on change sa classe et son aspect change immédiatement. De la même manière, vous avez vu que dans les objets, dans les écrans de création, on peut définir des positions absolues, mais la plupart du temps, il vaut mieux utiliser des positions relatives, ce qui fait que l'écran se redessine tout seul. On n'a rien à faire. Je vais maintenant vous montrer un autre aspect. Donc, je sors. Alors, pluie peut être appelée depuis via Ponx, un autre de mes logiciels qui est en fait Ponx et Python est un serveur COM très excellent. Et on peut donc appeler du Python depuis Word, Excel, d'autres langages, etc. Ici, j'ai fait une fiche Excel qui va, lorsque je vais modifier la valeur d'un des deux premiers champs, celui-là ou celui-là, je vais mettre un, ça va appeler la fiche pluie que nous avons modifiée tout à l'heure. Et on va récupérer le résultat du champ 1 dans cette zone. Alors, démonstration. Je mets un 1. Ça ouvre la fiche, celle qu'on a modifiée. On saisit une valeur que l'on veut. Bon, enfin, n'importe quoi. Et lorsque je fais OK, ça affiche la valeur, ça ferme la fiche et ça la ramène dans Excel. D'accord? Donc, on va le refaire en montrant qu'on peut modifier à la volée. Donc, je valide. Ici, on va ajouter quelque chose d'autre dans la fiche. Ajouter. Je vais ajouter avant le bouton une image. Continuer. Alors, elle s'appelle p1.gif, je crois. Voilà. Alors, ça a ajouté une image, c'est un GIF animé, bon, etc. Par contre, c'est pas beau, on va rajouter un saut de ligne. Alors, j'ajoute juste avant le bouton un saut de ligne. Bon, je valide directement, valeur par défaut, c'est déjà mieux. Et on va lui faire calculer 2, 2, 2, 2, avec le bouton, avec le code qu'on a mis tout à l'heure. Donc il y avait none, il y a 2, il va modifier le champ 2, voilà, il a mis 6, etc. Et maintenant, si on valide, on récupère le contenu du champ dans Excel. Alors, pour vous montrer. Voilà. Non, c'est pas là. Non. Je vais vous montrer la macro Excel qui fait. J'ai toujours du mal à la retrouver. Voilà. Alors ici, en fait, c'est très simple. On ouvre un objet COM. Bon, c'est Ponx, c'est moi, c'est le logiciel serveur COM en Python. Et on appelle directement la fonction qui s'appelle pluie, F comme fiche, et run pour l'exécuter. Le répertoire où elle doit être exécutée et le nom de la fiche. Donc c'est EX val1 et point utilise puisqu'on va l'utiliser. Et c'est tout. Alors, hop. Maintenant, c'est bon, encore 4 minutes. Je vais vous montrer quelques autres fiches de pluie, comme exemple, parce que là, on a vu une fiche très simple. Ici. C'est une fiche qui ouvre une deuxième fenêtre. Alors, un truc intéressant, il faut savoir que les événements sont tous bufferisés. C'est-à-dire, si je clique sur ouvrir la fenêtre 2 encore alors qu'elle est ouverte, j'ai beau continuer. Lorsque je ferme la fenêtre 2, elle se rouvre puisqu'on a demandé à l'ouvrir. Donc, tous les événements sont bufferisés et on les prend et on va taper dans la file au fur et à mesure. Ici, ben oui, si j'arrive à le lancer. C'est pour vous montrer qu'il y a bien du JavaScript, puisque c'est une petite animation JavaScript qui est dans la fiche. Alors on pourrait aller voir à l'intérieur le contenu, bon, l'arbre des objets, etc. Donc c'est juste une petite animation. Ici, on peut dans pluie, on peut gérer des ActiveX. Alors les ActiveX, ça peut être intéressant pour pas mal de choses. Sur cette ici, c'est un ActiveX qui s'appelle 3DXML Player, qui est fourni par Dassault. Et qui permet de manipuler des objets 3D. pas très à l'aise avec celui-là. Devoir de faire des zooms, etc. De déplacer, bon, etc. De choisir. Bon, etc. Une autre fiche. On peut embarquer Excel à l'intérieur. Alors, on va réduire le ruban. Voilà. Ça, c'est une fiche Excel qui est à l'intérieur d'une fiche PUI. Donc, à fait, c'est Excel. Vous avez toutes les formules que vous voulez, etc. On peut faire la même chose avec Word. Donc, etc. est modifiable. Et vous pouvez voir le ruban entier si vous voulez, ou etc. Et on peut faire la même chose avec, pour ceux qui aiment mieux, OpenOffice.org. La différence, c'est que OpenOffice.org ne permet pas la modification à l'intérieur de documents embarqués. Quand on clique sur édition, il ouvre une nouvelle fenêtre. Et bon, je n'ai pas trouvé le moyen d'embarquer l'édition en même temps. Quelques autres exemples. Fiches. Alors là, c'est des tableaux. Donc on remplit les lignes, on insère, on supprime, on re-remplit. Donc on peut gérer des tableaux de longueur illimitée. Ici, je vous ai mis un tree view pour montrer que bon, ça peut être marrant aussi. Et dernier point, c'est ici, je vais cliquer sur OK, ça va insérer le champ 3, le champ 13, un texte et un tableau. Puisqu'on peut le faire par code de la même manière qu'on le fait en interactif. Voilà, et c'est immédiat. Par contre, quitter, voilà. Donc il me reste maintenant une minute pour les questions.
Bonjour. Moi, ma question, elle est plus d'ordre. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de choses? Quelles étaient vraiment les utilisations que vous cibliez?
Alors, j'ai regardé les GUI qui existaient pour Python. J'ai commencé par TK. TK, il a l'inconvénient. Moi, je travaillais essentiellement sous Windows. Donc, TK a l'inconvénient de ne pas gérer les ActiveX. Or, les ActiveX permettent de faire énormément de choses. Donc, j'ai regardé après VX. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que, un, c'est très lourd. Deux, c'est encore plus lourd. Trois, je me suis heurté à des problèmes de version, c'est-à-dire que je faisais des scripts, une nouvelle version de VX sort, c'était plus compatible. Après, j'adapte mes scripts, j'installe un outil qui utilisait une version d'avant de VX, donc j'arrêtais pas d'avoir des conflits de version. En plus, ça ne me permettait pas de faire de l'aspect ultra dynamique que j'aime bien, c'est-à-dire pouvoir modifier en cours de travail. Donc, j'ai cherché un peu, j'ai rien vu de spécial. Je me suis dit, on peut faire pas mal de choses en pilotant Internet Explorer. Et j'ai essayé, et j'ai vu que c'était possible et que ça répondait vite et tout. Je me suis lancé.
Oui, bonjour. Pourquoi pas tout faire en JavaScript avec des librairies comme AppFuse ou Prototype?
Alors, effectivement, on aurait pu, mais JavaScript est assez limité pour tout ce qui est accès local au poste. Si on veut faire de l'accès base de données, accéder aux API de Windows, accéder au disque directement ou à des bases de données, enfin les bases de données, je l'ai déjà dit. Et donc, il y avait la possibilité de passer par des ActiveX qui allaient compléter JavaScript. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on utilise souvent avec des HTA, où on appelle des ActiveX, dont Python. Mais bon, comme je suis beaucoup plus à l'aise à Python et avec Python et que je préfère nettement Python, mais effectivement, c'était une démarche possible. Il faut savoir que si on veut avoir un accès avec JavaScript complet à la machine sans être embêté par les problèmes de sécurité et tout ça qui se déclenchent, il faut passer par les HTA, HTML application. Et à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est purement local. Ça existe. D'ailleurs, vous pouvez mettre faire du Python dans du HTA à condition d'installer la partie Active Scripting de Python.